Les nuits de France Culture.
Dans les 10 émissions qu'il lui consacrait après son inauguration, Daniel Lecomte évoquait le théâtre musée de Figueras comme l'œuvre qui mobilisa toute l'énergie créatrice des dernières années de Salvador Dali. L'existence de ce musée était l'occasion de faire entendre le jugement porté par Dali sur 4 siècles d'art pictural en tentant de percevoir les interrogations, possiblement sincères, masquées par ses provocations et ses pitreries. Dans la 2e émission de cette série que nous allons entendre, témoignait ainsi le peintre Liuba qui tentait de comprendre le sens de l'intérêt de Dali pour les peintres académiques comme Bougreau et Meissonnier et qui décrivait ce qu'avait été sa propre perception de son tableau « Le sacrement de la dernière scène ». Témoignait également le photographe Robert Descharnes, proche collaborateur de Dali, expert de son œuvre à laquelle il consacra une grande part de sa vie. Il décrivait dans ce 2e volet comment intervenait la photographie dans le travail de Dali en évoquant la manière dont avait été exécuté son Jacques le Majeur ou Santiago el Grande. Nuit magnétique, clé pour un théâtre musée, 2e des 10 épisodes, éléments énigmatiques dans un paysage, première diffusion le 7 novembre 1978 sur France Culture.
Salvador Dali, clé pour un théâtre musée, par Daniel Lecomte.
C'est à Figueras, petite ville du nord de la Catalogne où il est né il y a 74 ans, que Salvador Dali s'emploie à installer son musée. Il a choisi l'ancien théâtre municipal qu'une bombe incendiaire tombée au cours de la guerre civile avait transformé, selon lui, en un exceptionnel ready-made. En faisant renaître ce théâtre de ses cendres, Dali a fait ressurgir parallèlement son imagination enfouie sous 10 années de production et d'exhibition approximative. Comme Gaudi, qui n'en finissait pas de transformer les plans de la Sagrada Familia au fur et à mesure de l'avancement des travaux, Dali ne cesse de faire évoluer la disposition et le contenu des collections. C'est le musée lui-même qui est l'œuvre d'art, disait-il hier. Et cette œuvre lui tient tellement à cœur qu'elle ne doit pas s'arrêter, sous peine de l'obliger lui aussi à s'arrêter de vivre. De tous les projets qui retiennent son attention, le plus immédiat concerne l'organisation d'une grande salle où seront rassemblées les toiles exemplaires de la peinture universelle, les plus grands maîtres côtoyant les artistes pompiers.
Je viens de décider dans la chambre des grands, que j'appelle des chefs-d'œuvre, de mettre un Bougreau, qui est maintenant en bas et qu'on ne voit pas. Et sûrement c'est un chef-d'œuvre de Bougreau. Que ce soit au Bougreau, ou Fortuny, ou Raphaël, ou Meissonnier, ou Millet, ou Braque, ce qui compte c'est la qualité. La chronologie est totalement effacée.
Et c'est une qualité, une façon de savoir peindre?
Non, une qualité que moi je considère, mais que personne n'est d'accord avec moi.
Mais par exemple, je crois que Bougreau, dans votre catalogue des valeurs, comme ça, au point de vue de l'imagination, par exemple, il n'en a pas beaucoup.
Ça, je ne me souviens pas. Et chaque fois que je veux m'en souvenir, je me trompe.
Bon, j'aurais dû vous amener le barème.
C'est ça.
Bon.
Mais ça se modifie, évidemment. À propos de Velázquez, je crois qu'il lui donnait très peu en imagination. Et maintenant, ça résulte que c'est celui qui en avait le plus de tous. Parce qu'on vient de recevoir des livres dans lesquels Las Hilanderas, c'est un tableau d'une imagination, et il y a des revues, il y a des choses cachées, des mystères, il y a beaucoup plus que dans n'importe quelle œuvre surréaliste.
C'est ça, mais c'était caché, occulté d'une certaine façon.
C'est-à-dire que presque toujours, les grands artistes suivent les mots d'Héraclite, la nature aime à se cacher.
À côté de cette vaste salle, où il logera ses maîtres préférés, comme au Panthéon...
Il va y avoir toute une chambre dédicacée au plus grand peintre français, que d'après moi c'est François Millet, et d'après vous, et probablement, et beaucoup de Français, c'est Paul Cézanne. Et moi, je considère que Paul Cézanne, c'est un des plus mauvais peintres qu'ils ont jamais existé.
Non, François Millet, c'est quand même un dessinateur de taille, hein.
Non, un peintre, l'Angelus. Après, j'écris d'ailleurs tout un livre qui s'appelle « Le mythe tragique de l'Angelus de Millet ».
Dans ce livre, écrit en 1940, et dont le manuscrit égaré ne put être publié que 22 ans plus tard, Salvador Dali décrit de façon éblouissante les phénomènes associatifs provoqués en lui par l'image du couple de paysans en prière. Il y met en évidence ce qu'il appelle le drame insoupçonnable, caché sous les apparences les plus hypocrites du monde, dans le simulacre obsessif, énigmatique et menaçant de soi-disant prières crépusculaires et désertiques, qui s'appelle officiellement encore de ce nom imprécis et recelleur, l'Angelus de Millet. Cela l'incita à faire radiographier le tableau. Il découvrit sous la peinture, entre le paysan et la paysanne, la forme d'un cercueil renfermant leur fils mort. Pour Dali, son escamotage expliquerait le malaise inexplicable des deux figures crépusculaires. Malgré l'admiration que Salvador Dali voue à Millet, il ne l'a pas fait figurer dans son tableau comparatif des talents picturaux indéniables. Le barème en est typiquement dalinien. Comme à la fin d'une année scolaire, on y trouve des prix d'excellence, Velázquez, Vermeer, Raphaël, Vinci. À égalité suivent Picasso et Dali lui-même. Puis viennent les élèves dissipés et irréguliers comme Meissonnier, dont le sens du mystère est coté 17, mais l'originalité 2 sur 20, l'inspiration et le génie 0. Et même, comble de sévérité, la technique 5 sur 20 seulement.
Et moi, à ce moment-ci, je faisais l'apologie du plus grand peintre français en l'opposant à Cézanne, c'est-à-dire Meissonnier. Et j'insistais beaucoup sur les boutons dans les guêtres de Meissonnier qu'on pouvait compter les quatre petits trous.
Pourtant, Meissonnier, vous le qualifiez d'ultra-rétrograde aussi.
Au point de vue mentalité, c'est de la bourgeoisie lyonnaise très médiocre. Mais ça n'a rien à faire avec son œuvre et le résultat de certains de ses tableaux. J'ai toujours trouvé que Meissonnier, c'est un peintre excessivement mystérieux, puisque il représente, sans le vouloir, ce que dans la physique nucléaire on appelle quantum d'action. Mais on peut dire que toute la science actuelle, et surtout Heisenberg, c'est tellement ultra-rétrograde qu'on retourne au grec. J'ai été très étonné de voir quand Heisenberg a expliqué sa théorie du champ unifié en physique, en microphysique. Il a commencé pour dessiner le dodécaèdre et le corps platonicien, les cinq corps solides platoniciens. Quoi de plus rétrograde?
Mais alors, pour vous, en général, que ce soit en philosophie, en peinture, les siècles passés ont pratiquement tout inventé.
Bits d'informations. Oui. C'est ce qu'ils ont apporté.
Mais actuellement, qu'est-ce que nous pouvons faire? Une espèce de synthèse de ces informations?
Ah, pas du tout. Il faut ajouter de l'information.
Vous êtes défini en disant « je suis l'antifaust ». La jeunesse ne m'intéresse pas.
C'est pour ça que j'aime les gens comme plus vieux possible. Et parce que les jeunes n'ont aucun genre d'information. Quand je regardais le visage de ma grand-mère, je voyais tellement de rides, je me disais, mon Dieu, ça c'est comme des circuits imprimés d'informations. Tandis que les jeunes hommes, que j'ai giflé d'ailleurs parce que je le trouvais tellement idiot, qu'il avait pas une ride, et il mangeait stupidement du chocolat et du pain et du chocolat, je me disais, ça c'est à gifler. Et d'ailleurs, je l'ai giflé. C'est ce qui est écrit dans Ma vie secrète, vous vous souvenez de ça?
C'est ça, absolument. Ça, c'est quand vous étiez petit garçon.
Enfin, quand j'avais quelque chose comme 10 ans.
Pourquoi les problèmes scientifiques vous importent-ils tant?
Parce que les bits d'information sont l'unique chose qui détermine pour moi
la valeur d'une œuvre artistique. Et évidemment, Velázquez, c'est celui qui l'en apporte plus. Après, il y a Vermeer.
Et est-ce que, par exemple, Meissonnier apporte?
Il apporte beaucoup.
Ljuba, peintre yougoslave de 40 ans, dont l'œuvre évoque les thèmes traditionnels fantastiques et l'influence de la psychanalyse, donne une autre explication à cette passion de Dali pour les peintres-pompiers.
Cet rapport qu'il a avec le peintre-pompier, moi, je crois que ça, c'est une coquetterie, d'abord. Mais ça peut aussi être une source d'inspiration. Moi, souvent, pour m'inspirer, je ne peux pas aller voir un tableau de Leonardo. C'est impossible parce que ça me dépasse. Et puis, c'est tellement parfait que je n'ai rien à chercher là-bas. Alors, plutôt, je peux être inspiré par un maître moyen qui a mal fait un tableau. Et je crois que Dali, il a trouvé beaucoup d'inspiration chez le pompier à cause de ça.
Vous savez que même il définit la peinture en disant que ça n'est jamais qu'une reproduction d'une photographie, mais faite avec un pinceau.
C'est-à-dire, pour lui, la photo, c'est très utile, mais j'ose dire que ces tableaux sont photogéniques. Ces tableaux sont comme une photo, mais pas du tout une photo. Mais moi, je ne crois pas qu'on puisse se servir d'une photo.
Malebranche, il a dit que ce que nous voyons, ce n'est pas dans les objets, mais c'est dans notre âme. Donc, si Velázquez copie une photo, le résultat, c'est Velázquez. Si Vermeer copie une photographie, le résultat, c'est Vermeer. Si un être complètement stupide copie une photographie, ça sort une stupidité. C'est pour ça que j'ai dit une fois, aussi à la télévision américaine, on m'a dit, quelle est la différence entre le tableau de Juan de Pareja, que c'était celui qui préparait l'étoile, enfin, à Velázquez, et une photographie du même sujet pris dans le même angle par le meilleur photographe du monde. Et j'ai dit, la différence entre la photographie du meilleur photographe du même sujet et la peinture de Velázquez, c'est tout simplement une différence de 6 millions de dollars. C'est ce qui est arrivé. C'est un tableau totalement photographique. Il n'y a aucune déformation. Ça vaut 6 millions. Et une photographie du même sujet ne vaudrait absolument rien.
Mais ça, c'est peut-être une question marchande plus qu'une question esthétique.
Non, c'est une question de valeur. De valeur. C'est une chose vaut tant et l'autre ne vaut rien.
Et elle vaut parce qu'il y a l'intervention d'un peintre.
Ah, parce que c'est lui qui a fait la copie. Celui qui copie une photographie, chaque personne est différente. Chaque âme qui copie une photographie, c'est une âme différente, c'est tout. Mais ça, c'est la ruine totale de l'expressionnisme, que c'est les gens que, d'après moi, n'ont rien, absolument rien à exprimer. L'expressionnisme, c'est les gens qui n'ont rien à dire. Alors il faut qu'ils déforment, il faut qu'ils l'allongent, il faut qu'ils transforment la réalité. Quand l'unique chose vraiment saine, mentalement parlant, c'est de copier d'une façon servile la réalité, c'est tout.
Toutefois, vous-même, vous avez fait dans un écrit une différence entre l'imitation et l'interprétation, et d'autre part, entre la plastique et le trompe-l'œil. Vous avez opposé ces termes-là. Donc, on peut faire du trompe-l'œil sans avoir forcément un événement plastique.
Ah, évidemment. Mais nous n'en sommes plus là, maintenant. Maintenant, nous sommes en plein hyper-réalisme.
Et vous pensez que...
Et ça n'existait pas à l'époque. Et ça confirmait l'idée que Vermeer était déjà un hyper-réaliste. Si dans la vue de Delphes, merveilleuse, un des plus beaux tableaux de Vermeer, il y aurait eu une cabine téléphonique, alors Vermeer aurait peint exactement la cabine téléphonique. Donc, l'hyper-réalisme apportait une espèce de nouvelle morale à la peinture.
Toute cette déclaration qui parle d'ailleurs de l'hyperréalisme, je crois qu'il se trouve dans un impasse comme on se trouve tous les hyperréalistes d'ailleurs, parce que c'est une génération qui ne porte rien, une génération qui est dans le vide. Je vais vous dire quelque chose. Dali, il est assez âgé. Il est entré dans un certain âge d'impuissance physique et dans le tout les autres sens d'impuissance qu'on peut s'imaginer. Et c'est tout à fait normal qu'il se serre avec les deux photos. C'est-à-dire qu'il n'est pas maintenant capable de faire les choses qu'il a fait quand il était jeune. Dans l'exécution de Dali, d'ailleurs, la projection physique qu'on fait sur le toile, il y a une intervention d'alien dedans qui est bon. Mais ce n'est pas la photo qui est bon. Et ça, c'est une grande différence. Par exemple, comment on fait le tableau, les réalistes américains, sans aucun esprit dedans, avec une photo mise sur toile, sans aucun fantasme. C'est-à-dire que ça devient quelque chose sec qui est même beaucoup plus mauvais qu'une photo.
Pour mieux comprendre les rapports singuliers qu'entretient Dali avec l'apparence du monde, nous avons interviewé Robert Descharnes, qui a travaillé comme photographe à la mise au point de certains tableaux de Dali, par exemple au Saint-Jacques-de-Compostelle. Pour le fond du tableau, Dali s'est servi d'un premier document photographique représentant la coupole de Saint-Sernin à Toulouse. Devant ce décor, il a placé le cheval portant Saint-Jacques.
Je n'ai pas photographié moi-même le cheval immédiatement, parce que Dali est toujours très exigeant. C'est-à-dire, s'il y a un endroit et des gens qui peuvent me donner satisfaction, ce sont les spécialistes de l'équitation. Donc, il m'a dit, débrouillons-nous pour demander à Saumur, au cadre noir, ils doivent bien avoir un photographe, qu'un photographe travaille ou il a des archives ou qu'il demande et qu'on va se faire des photos avec des officiers du cadre noir. Nous faisons faire les photos, c'était très bien, c'était d'excellentes photos, mais malheureusement, pas d'excellentes photos pour le propos de Dali.
Pour son projet.
Pour son projet, à distance, téléphone, lettres, ça n'allait pas. Il a trouvé dans une grande revue internationale un reportage sur l'école d'équitation espagnole de Vienne. Et dans une pleine page, il y avait un cheval qui faisait la cabrade, c'est-à-dire les pattes de devant complètement dressées, tout à fait au centre de son tableau. Il trouve le corps très bien, il le retient.
Donc il se sert de cette photo.
Disons qu'il se sert de la page de journal, qu'il la met au carré, qu'il la reporte, qu'il l'utilise. Et la position du cou et de la tête de l'animal, elle ne convenait pas. Elle manquait. Alors nous décidons de photographier. D'autres chevaux. Nous essayons d'abord de faire le cou et la tête sans le mouvement de cabrade. En allant dans la ferme d'un de ses amis, proche de Cadaqués, nous cherchons. Tout ça ne fonctionne pas bien. Finalement, après un coup de téléphone, Dali s'entend avec le commandant de la place de Figueras, où il y avait encore à l'époque, c'était en 1955 ou 6, quelques cavaliers. Nous y allons et on trouve un officier qui pouvait faire la cabrade avec un des chevaux qui voulait bien le faire. Parce que les chevaux de la cavalerie espagnole, ça n'avait rien à voir avec tous ces beaux chevaux arabes que nous voyons dans les peintures. C'était vraiment des chevaux qui tenaient à moitié du cheval ou du mulet, mais enfin, il y en avait un qui n'était pas mal. Et moi, j'avoue qu'à ce moment-là, j'avais des problèmes pour arriver à éclairer tout ça, parce que naturellement, comme d'habitude, Dali n'avait voulu y aller qu'à 5h30 de l'après-midi ou 6h, le jour commençait à tomber, donc j'ai dû éclairer avec une lumière d'appoint, en l'occurrence un flash électronique, attaché avec des ficelles après une fourche qu'un soldat brandissait pour la mettre assez haut, pour que la lumière paraisse une lumière venant du jour, et pas contre-direction. Et bref, j'ai fait une photo et cette photo est très très bien sortie. Seulement, les amateurs de photographie le savent bien, ou les spécialistes, quand on fait une photographie au flash électronique, elle est particulièrement nette. Donc, ma photographie avait des détails, beaucoup, beaucoup de détails. Alors que la photographie du reste du corps du cheval, qui elle était déjà passée, avait suivi tous les phénomènes de transformation entre l'image de base et puis, comment dirais-je, le rouleau compresseur de l'imprimerie pour 6 ou 7 millions d'exemplaires, était, elle, tramée avec... enfin, bref, elle était, disons, beaucoup moins nette. Eh bien, Dali a réuni les deux images et les a peints avec un souci et une disponibilité vis-à-vis du sujet de ne rien changer. Et si vous regardez la peinture, vous apercevrez que le corps du cheval est infiniment moins net que le cou et la tête.
Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que lui qui passe pour un mystificateur, enfin, ne puisse pas justement arranger un peu le manque de précision du corps du cheval pour le mettre au niveau de l'extrême précision, ou au contraire
Ça n'est pas qu'il ne peut pas l'arranger, c'est qu'il ne veut pas. Il considère qu'il doit avoir une attitude d'une honnêteté et d'une grande intransigeance vis-à-vis du document.
Et maintenir cette image du collage.
Exact.
Je suis contre la unification. Je suis un personnage absolument... Je fais tout par des morceaux. Tous mes tableaux manquent d'unité. Heureusement.
Donc là, même dans le rendu du poil, du cheval, etc., vous teniez à ce que ce soit disparate.
Pujols, il a dit que je suis l'unique peintre à pouvoir peindre la chimère d'Horace. Et cette chimère, il a la poitrine d'un cheval, la tête d'un cygne, les jambes d'un flamant rose, en fait, je ne sais pas, c'est les plus disparates images qu'on puisse jamais imaginer. Et que je suis capable, moi, uniquement, de les unir et de leur donner de la vie.
On reconnaît là le goût que Dali a toujours eu pour le collage. Mais pour réussir un collage, encore faut-il savoir repérer l'élément le plus fécond de tous ceux dont on dispose. Ainsi, à propos de la série des prises de vue sur le cou du cheval.
Parmi tous les clichés qui étaient très différents, Dali en a tout de suite repéré un en disant « j'y vois un ange ». Et il a répété le petit détail de lumière qui formait cette figure d'ange sur le cou du cheval. Il l'a répété en le rapetissant et l'image part à l'infini à travers la structure de la nef de la cathédrale Saint-Sernin ou de l'église Saint-Sernin pour disparaître complètement dans le ciel.
Et s'évanouir.
Et s'évanouir.
On a dit souvent que la photographie c'était un instant de mort, enfin une chose qui était passée et que le cliché était en relation avec la mort. Or, lui, Salvador Dali, a souvent parlé de la mort, de la dignité de la mort, et même il a expliqué sa vie en disant que c'était presque défini par une lutte contre la mort.
Oui, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'en effet, la présence de la photographie dans l'œuvre de Dali a souvent un caractère assez dramatique. Elle est pesante. Les tableaux de Dali ne s'aère pas avec l'apport de la photographie.
Cependant, elle ne semble pas retirer d'efficacité à ses tableaux, même les plus apparemment photographiques. À ce propos, Liuba nous raconte l'aventure qui lui est arrivée à la National Gallery de Washington, où il était allé voir des peintures de la Renaissance.
Derrière moi, tout à coup, je vis un tableau qui m'a tellement frappé. C'était la scène de Salvador Dali. Il avait quelque chose dans la proportion que je n'ai pas aimé. Surtout, c'était la proportion entre le sol et la table et la troisième partie qui était un peu mal équilibrée. J'ai eu une certaine répulsion. Et j'ose dire aussi que je n'ai pas tellement aimé ce tableau. Je crois que c'est arrivé à cause de Canaletto que je vis un moment avant. Je voulais aller, mais quand même, il y avait quelque chose de magique qui me tient devant ce tableau. Je continue à regarder et puis je voulais déchiffrer pourquoi Dali il a fait cette erreur dans la proportion. Parce que je ne crois pas que Dali c'est quelqu'un qui n'est pas capable de trouver un équilibre. Et tout à coup, j'ose dire par hasard, je jetais un coup d'œil à gauche. À gauche, dans ce tableau, il y a un petit bateau. J'ai regardé ce bateau et je crois que je trouvais la clé du tableau. Parce que la tête de Christ est partie, j'étais dans le piège d'une certaine construction de ce tableau et j'étais dedans. C'est-à-dire, c'était le moment tellement mystique pour moi que je compris que je participe à la scène.
C'est-à-dire, vous vous étiez substitué au Christ?
Plutôt, j'étais dans cet espace. Et le tableau, il a eu une profondeur énorme dans ce moment, que tout à coup, d'ailleurs, après, je jette un coup d'œil là-haut et je vois une apparition d'un autre corps que je n'ai pas vu dans le premier moment.
Et ce n'est pas seulement une illusion optique.
Vous savez, donner la réponse à cette question, je crois qu'il y a deux. Il y a une illusion optique, bien sûr, mais il y a quelque chose de plus que ça. C'est-à-dire que l'espace qu'il a construit, c'est un espace, disons, mystique, un espace qui m'a tellement frappé et que je crois qu'il est très difficile de déchiffrer dans la première coup.
S'agit-il d'un investissement imaginaire de Liuba? S'agit-il d'une mise en scène diabolique de Salvador Dali?
Je suis un mixtificateur.
Est-ce que vous...
Un peintre est un mixtificateur parce qu'il ne fait que mixter, que faire des mixtions entre l'huile, entre les terres de Sienne, c'est une espèce de cuisinier.
Oui. Vous, vous avez compliqué le jeu parce que vous avez aussi mystifié le regard avec vos trompe-l'œil et vos images doubles.
Pas autant que la Renaissance italienne, surtout les jésuites et le padre Pozzo, que c'est le plus grand de tous, qui est devenu fou à cause de tant de mystification, qui avait fait le San Ignacio à Rome, qui est le chef-d'œuvre de la fausse perspective. Et c'est impossible pour les gens savoir où ça commence un chapiteau et où ça continue celui qui est peint.
Oui.
Ça, et... le maximum, c'est dans le style jésuitique à Rome.
Et alors, est-ce que pour vous, cette démarche-là relève aussi de ce que vous cherchiez, c'est-à-dire le discrédit du monde de la réalité, enfin, du monde immédiatement photographique?
Absolument. C'est ce qui attire les gens.
Seulement, vous défendez les hyperréalistes et eux ne travaillent pas dans l'image double, en fait.
Mais ils peuvent travailler.
Ils peuvent. Mais eux...
Avec la technique est très adéquate pour l'image double. Maintenant, ils en sont uniquement à leur première phase. C'est pour ça que, de même que l'art expressionniste ou l'action painting est absolument impossible à... faire des images doubles avec la chose hyperréaliste, oui. Allô? Enfin, on fait la propagande en Allemagne et en mon absence, on a déjà fait deux choses très laides qu'on les voit. Vous le voyez de chez vous? Alors, vous imaginez, ça vous... Parfait. Demain matin. Parfait, merci. Bonjour.
Oui, nous disions donc...
Jamais il faut interrompre
les bandes.
Les bandes, parce que c'est chaque fois qu'il y a un accident, il faut les considérer sacrés dans ma vie. D'ailleurs, maintenant, tout ce que vous me demanderez, ça sera la réponse du coup de téléphone. Alors, ça va être...
Clé pour un théâtre-musée. Élément énigmatique dans un paysage. Salvador Dali, par Daniel Lecomte et Jacqueline Archambault, avec le peintre Liuba et le photographe Robert Descharmes.
C'était le deuxième des 10 épisodes de la série Clé pour un théâtre-musée, première diffusion le 7 novembre 1978 dans Les Nuits Magnétiques sur France Culture. À suivre.